Voix d'automne. Les Inrecuptibles, partenaires de la 49e édition du Festival d'automne à Paris, du 5 septembre 2020 au 7 février 2021.
Bienvenue dans ce deuxième épisode de Voix d'automne, une nouvelle série de podcasts proposés par les Inrecuptibles et le Festival d'automne à Paris. Chaque mois, nous invitons des femmes à parler de leur création, mais aussi de ce qu'elles voient, de ce qu'elles lisent et de ce qu'elles écoutent. Je suis Ingrid Luc-Egad et je reçois aujourd'hui Claire Le Restif, directrice du CREDAC et commissaire d'exposition, et Kaponi Kiwanga, artiste et chercheur. Bonjour à toutes les deux, bonjour Claire Le Restif, bonjour Kaponi Kiwanga. Je suis très heureuse de vous recevoir aujourd'hui. On va évoquer l'exposition La vie des tables qui va se tenir au CREDAC dans le cadre du Festival d'automne avec la participation notamment de Kaponi Kiwanga qui occupera donc l'une des tables de cette exposition. Avant de rentrer un peu plus dans la matière de l'exposition, je voulais en guise de présentation évoquer un peu votre collaboration à toutes les deux. Puisque c'est pas la première fois que vous allez travailler ensemble, que Kaponi tu vas exposer avec Claire, puisque déjà l'an passé, dans le cadre du 21e prix Ricard, dont tu étais commissaire Claire, tu avais déjà invité Kaponi. Donc j'aimerais un peu revenir sur la manière dont tu as découvert le travail de Kaponi et un peu les interactions qui ont pu se lier au fil de votre cheminement et qui font qu'on aboutit aujourd'hui à cette exposition.
Alors merci, bonjour Ingrid. Le travail de Kaponi Kiwanga, pour moi, explore la sculpture documentaire, enfin ce qu'on pourrait qualifier de sculpture documentaire. Et c'est peut-être tout l'aspect et l'envergure anthropologique du travail de Kaponi qui m'a tout d'abord frappée. Et j'avoue avoir été assez époustouflée par une des œuvres de Kaponi, il y a 5 ou 6 ans, qui s'appelait Flowers for Africa. Et quand j'ai été invitée, en effet, à être la commissaire du 21e prix Ricard, il me semblait que Kaponi avait évidemment toute sa place dans ce que je considère, en fait, peut-être une sélection des artistes qui comptent sur la scène française. Donc, pour répondre à ta première question, c'était ça. Et puis, nos échanges, la qualité de nos échanges, la limpidité aussi de nos échanges ont fait que j'ai eu envie de prolonger nos échanges par une exposition solo qui devait avoir lieu en avril dernier. Peut-être que Kaponi aura envie d'en dire un mot, donc je ne révèle pas tout. Et en effet, tout naturellement, pour le projet que tu évoques, La vie des tables, Kaponi était évidemment une des invitées toute destinée.
Et peut-être pour rentrer un peu plus dans le concret des œuvres et du propos que tu développes, Kaponi, est-ce qu'on pourrait revenir sur cette œuvre Flowers for Africa, qu'on est en effet nombreux à avoir vue à Paris, parce qu'elle a été présentée à la FIAC, elle a eu beaucoup de presse, et c'est une série aussi que tu développes et que tu as exposée à plusieurs reprises. Est-ce que tu pourrais comme ça nous décrire un peu de quoi il s'agit, à la fois plastiquement et aussi comment ça s'inscrit un peu dans ton travail de recherche.
Bonjour, merci. Donc, c'est vrai que Flowers for Africa, c'est un projet qui est très cher à moi, parce que je considère un peu comme le projet qui, j'espère, m'a accompagné pendant plusieurs années. Une carrière, je ne sais pas, mais dans tous les cas, j'ai commencé en 2013, quand j'étais 14 plutôt, pardon, quand j'étais invitée à faire une résidence à Dakar, au Sénégal. Et j'étais très intéressée par le moment d'indépendance africain, surtout dans tous les continents. Mais quand j'étais à Dakar, je me suis concentrée sur des archives iconographiques dans plusieurs lieux, des archives nationaux, mais aussi des universités, différents lieux de recherche à Dakar, pour avoir essayer de comprendre un peu plus comment ça s'est passé pour le Sénégal. Et à faire mesure, il y avait ces photos qui étaient intéressantes, mais ce qui m'attirait plus l'attention, c'était qu'est-ce qui pouvait passer hors cadre. Donc, des gens qui regardaient, qui vivaient vraiment, les citoyens, qui devenaient citoyens de nouveaux pays. Et après, j'ai vu ces bouquets, des arrangements floraux qui m'ont beaucoup marqué. Et je me dis, ça peut-être une façon de rentrer dans cette moment historique de notre billet. Pas par les hommes politiques et des fois les femmes politiques, mais surtout les hommes politiques, mais plutôt par des choses qui passaient hors champ, des choses plus silencieuses, des témoins qui ne parlaient pas. Et du coup, c'est cette question aussi de travailler avec une matière qui sera une fleur, qui fanent, qui peuvent pas être un monument en granit, en pierre, en marbre, qui, pour moi, reproduisait un peu cette idée de nation, état-nation, comme on a pu toujours être confronté avec, et que pour moi, c'était plus une façon d'avancer avec une réflexion. J'ai pensé que ces pétales, c'est aussi le végétal pouvait être une façon de considérer l'histoire d'une autre manière. Donc, du coup, ce que je fais, à partir des images que j'ai pu trouver, 10 fois toute seule, mais souvent avec l'aide des amis ou des collègues qui peuvent se déplacer dans les archives nationaux dans les pays divers, cherche des moments très clés dans le passage de pouvoir entre l'Europe et les nouveaux pays africains. Et on cherche des arrangements floraux qui peuvent être présents. Ces images, après, sont montrées à un fleuriste ou des fleuristes qui, après, reproduisent au mieux ces arrangements floraux qui sont laissés sur les socles ou accrochés au mur et laissés faner pendant la durée de l'exposition. Donc, il y a une volonté de revivre pour un petit moment cet moment de repenser, de considérer ces moments, mais jamais de les figer ou de dire que ça, c'est l'histoire en soi, mais juste de peut-être prendre le moment de réfléchir et de laisser passer. Et passer à autre chose, de dire ces moments d'histoire qui rencontre notre présent. Et cette présent est toujours en mouvement aussi. Donc, c'est jamais une chose hermétique, terminé, ni autoritaire dans sa façon d'essayer d'inviter des gens à réfléchir à ce moment historique.
D'accord. Et donc, Caponi, dans ton travail, toi-même, tu viens d'un background de chercheur. Tu as fait des études en religion comparée et c'est vrai que tu as tout un travail comme ça documentaire, mais que tu réinscris dans des formes. Qu'est-ce qui te permet d'aller peut-être au-delà de ces relations un peu figées que tu évoquais en transférant tes recherches dans des matières plastiques, des matières sensibles?
Je pense que ça revient à cet chemin que j'ai pris avec Flowers for Africa et d'autres pièces, d'être un peu frustrée par les outils qui nous entourent. Donc les textes, les images en mouvement ou des iconographies plutôt fixes qui sont des outils importants, auxquels pas mal de chercheurs s'en servent, mais si on peut parler aussi de les histoires oraux qui sont aussi enregistrées. Mais pour moi, il y a une limite pour moi dans qu'est-ce que ça peut proposer comme une ouverture à la réflexion et des façons d'avancer vers un futur qui peut être plus complexe. Du coup, c'est vrai que petit à petit, je suis arrivée à l'art en passant par plutôt des documentaires, des films. Et du coup, je trouve que il y a une diversité de matières, bien sûr, qu'on peut s'en servir dans l'art, mais aussi que ça prend vraiment en compte la personne qui est en face. C'est pareil pour les films, c'est vrai, mais il y a un mouvement dans l'espace, le rapport avec le corps qui est un peu différent, qui, pour moi, crée un type de document vivant dans l'espace d'exposition ou d'écoute ou un espace de vision, de visionnage qui a plein de possibilités, de potentialités qui je trouve, l'art est assez riche pour ces ouvertures. Voilà.
D'accord, et pour en revenir un peu à la première question que je posais aussi à Claire, toi, Kiponi, tu as une galerie à Paris, tu exposes dans le monde entier et ton travail est justement sur ces processus géologiques. Mais qu'est-ce qui t'a fait choisir Paris comme ville d'élection, comme point d'ancrage, comme point de travail?
Paris, c'est un peu la vie et la vie. Hein. Donc, on ne sait pas de départ où on va rester. Donc, Paris, c'était une ville, quand je suis arrivée en 2005, donc il y a longtemps, je ne pensais pas y rester forcément. Je suis venue pour faire des études aux Beaux-Arts de Paris, dans un programme de post-diplôme. Je pensais rester 2 ans, la durée du projet. Mais la ville, Paris, avait une tension pour moi, personnellement, où j'aimais vraiment la ville et j'y détestais en même temps. Donc, je trouve que quand on est dans un endroit où on n'est pas complètement à l'aise, où on a besoin de se mettre en question, de observer différemment, ça peut apporter des choses intéressantes. Donc du coup, Paris m'a donné ça. Et avec les années, c'est vrai que la ville était assez généreuse avec moi. Donc j'ai eu beaucoup d'occasions de déjà montrer un peu de mon travail, mais aussi de pouvoir rester, travailler dans des conditions qui, en voyageant dans le monde, je voyais que... En tant qu'artiste, j'étais quand même assez privilégiée ici, qu'on ne trouve pas ça partout. Donc du coup, je suis très, très reconnaissante de cette possibilité de pouvoir créer avec les moyens qui sont plutôt bonnes par rapport à d'autres endroits. Donc Paris m'a donné beaucoup et du coup, je suis restée. Et du coup, je suis... continue à voir ça comme vraiment la base où je suis enracinée pour pouvoir, après, effectivement, aller voyager, être en dialogue avec d'autres personnes, d'autres scènes artistiques et d'autres scènes intellectuelles aussi. Mais c'est ici où je suis basée. Voilà.
Et alors, si on voulait un peu prolonger cette notion de scène, j'en reviens à toi, Claire. C'est vrai que le Crédac, toi, tu es basée à Ivry-sur-Seine. Et par cette position, peut-être un peu en recul, c'est vrai que tu as une programmation très internationale où tu fais du Crédac comme ça, un point d'ancrage qui est à la fois dans la ville et hors d'elle. Et si on fêtait en 2018 les 30 ans du Crédac, je pense que cette exposition, La vie des tables, justement, est une bonne introduction aussi à la constellation d'artistes dont toi, personnellement, tu t'entoures, puisque tu vas travailler à la fois des artistes avec qui tu as déjà collaboré, à l'instar de Kipwani, mais aussi avec des nouvelles voix que tu perçois sur la scène émergente parisienne. Est-ce que tu pourrais, de ton côté, peut-être nous décrire un peu comment tu perçois cette scène en mouvement qui transite par Paris, qui s'agrège autour de Paris et qui serait comme ça un peu cette nébuleuse que tu t'efforces à mettre en avant?
Alors, c'est vrai que la position du Crédac est une position à la fois... périphérique et centrale, au sens où on accueille énormément de gens qui sont des amateurs d'art, mais aussi, moi je tiens beaucoup à l'ancrage local, donc tout un travail que nous tentons de faire le mieux qu'on peut et pour accueillir les publics et travailler avec les publics et écouter les publics qui vivent à Ivry. Et c'est vrai que je tente à la fois de donner un espace de réflexion et d'expression à des artistes qui ont rarement l'occasion de s'exprimer ou qui ont fait très peu d'expositions sur ces dernières années, et en même temps essayer de distinguer des voix comme celle de Kipwani, par exemple, qui au fond s'intègrent dans mon programme de manière assez naturelle, parce que cette question anthropologique ou de recherche ou de sculpture documentaire, on la retrouve dans le travail de Michel Aubry, que j'ai remontré il y a quelques années, mais aussi d'Aurélien Froment, mais aussi Simon Boudvin, qui sera à l'exposition du printemps prochain. Donc c'est tous ces artistes chercheurs, mais qui arrivent à totalement réincarner les formes. On parlait tout à l'heure de Flowers for Africa. Pour moi, c'est vraiment aussi tout ce sens protocolaire, en fait, hein, qui est induit dans le travail de Kipwani, qui au fond, quelque chose, une forme qui m'intéresse depuis très longtemps. Et donc, pour revenir à ta question de ces 49 artistes qui vont être invités au Crédac dans cette rentrée tout à fait particulière, au fond, je crois que ce qui m'intéresse chez chacun, c'est justement cette capacité à saisir une idée et puis à l'incarner dans une forme qui sera une forme soit une forme en gestation, une forme au travail, mais qui peut aussi parfois vraiment se réduire à l'essentiel. Donc ça peut être à la fois chez des artistes beaucoup plus âgés, parce que je dirais que dans la vie des tables, il y aura des artistes qui ont 25 ans, 26 ans, jusqu'à plus de 80 ans. Donc c'est aussi ça, c'est cette amplitude-là qui m'intéresse, et c'est ces voix-là que je souhaite partager avec les publics, qu'ils soient du monde de l'art, mais aussi beaucoup plus sur la scène locale d'Ivry.
Et donc ce titre, La vie des tables, pointe à la fois un motif convivial, mais aussi un aspect de travail. Est-ce que tu pourrais peut-être développer un peu ce que toi tu entends par ce titre plus précisément ?
Oui, alors c'est un titre tout simple, hein, La vie des tables, mais je pense que cette idée, elle vient à la fois d'une idée d'exposition que j'avais depuis très longtemps, qui s'ancre dans la pensée de Lucy Lippard, donc cette à la fois commissaire d'exposition, chercheuse, penseuse américaine, qui moi me passionne dans les formats de curatoriaux qu'elle a inventés, parce que la forme curatoriale m'importe, comme tu le sais, vraiment, c'est une expression, enfin c'est une forme en fait, hein, la forme curatoriale est une forme. Et donc, à la fois chez Lucy Lippard, cette pensée de la forme expo, mais aussi parce que dans ses textes, elle disait que les artistes ont la plupart du temps, en fait, comme espace de travail, la table. Alors, c'est vrai pour les écrivains, hein, mais pour les artistes, ça peut être parfois une contrainte, parfois un choix. Et elle disait que les femmes, notamment, donc on parle là des années 70, mais c'est vrai encore aujourd'hui, que les femmes ont parfois, les femmes artistes, ont parfois comme seul terrain de travail, de lieu de travail, la table, oui, parfois la table de la cuisine, mais aussi pour des raisons parfois économiques. Hein, les artistes sont réduits à cette table. Et donc, cette idée de la vie des tables était née de cette lecture et d'une œuvre de Hugues que nous avions montrée en 2018 au Crédac, qui est une œuvre séminale chez Hugues, puisqu'elle date de la fin des années 90, où sur une table de cuisine en formica, il avait posé 25 petits objets de bricolage, comme on pourrait faire des petits objets lorsqu'on est au téléphone, donc comme des dessins, des petites occupations, des petits bricolages. Et donc, nous avions montré ces pièces sur cette table de cuisine. C'était sa décision que le socle de cette œuvre était une table de cuisine. Et donc, la convergence de ces deux idées pendant ce confinement m'est revenue. C'est-à-dire qu'au fond, quoi qu'il arrive, les artistes, tant qu'ils auront un papier, un crayon et une table, au fond, existeront. Et que peut-être, pendant le confinement, la table était à la fois la table où les artistes faisaient faire la classe à leurs enfants, faisaient le repas, faisaient le goûter, et peut-être le soir, tard, et je pense que c'est le cas pour Capuani, tard, ça redevenait sa table de travail. Donc c'est tout ça, c'est tout ce contexte. Mais à la fois, je dirais que ce n'est pas simplement une exposition que j'ai pensée pendant ce confinement et qui serait réactive à cette situation, mais elle s'adapte à une réalité de l'art qui est la réalité économique, le contexte de travail des artistes. Et dans les capitales, comme c'est le cas pour Paris, il y a beaucoup d'artistes qui n'ont pas de lieu de travail ou qui se battent pour avoir un lieu de travail ou pour le garder. Donc c'est tout ça aussi qui... c'est pas simplement une réaction, c'est aussi une affirmation, c'est aussi une position. C'est-à-dire de dire que, et peut-être à un moment, c'est bien de partager avec le public cette condition de l'artiste.
Alors justement, c'est parfait parce que je voulais te poser la question à toi, Capuani, comment tu travailles à Paris parce qu'on connaît assez peu, au final, souvent la réalité justement matérielle de l'artiste, surtout parce que toi, tu travailles dans une grande palette de formes. Donc, on t'imagine travailler aussi bien à la bibliothèque, qui est souvent l'endroit où tu donnes rendez-vous d'ailleurs pour tes interviews, que évidemment avoir une pratique d'atelier plus vaste. Donc, est-ce que tu pourrais peut-être nous décrire comme ça en quelques mots comment tu travailles, dans quel type d'espace et peut-être dans quel type aussi d'économie ou de processus comme ça un peu plus vivant et vivace aussi?
Bon, c'est vrai que la question d'économie est le point de départ. Et du coup, avec le temps, des choses ont évolué. Donc, comme je pense la plupart des gens, artistes ou autres, l'espace de travail, c'est vraiment la tête d'abord. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent en lisant, en conversant avec les gens, en réfléchissant. Et ça peut être dans le bus, ça peut être en baladant, ça peut être n'importe où, mais c'est beaucoup de travail qui se passe en dormant aussi, de travail qui se passe là. Et qui c'est vrai que en commençant, j'ai fait pas mal de conférences, performances. Pour la question d'économie aussi, j'avais qu'une table, un ordinateur. Donc, j'avais déjà un ordinateur, donc c'était pas mal. Et du coup, là, j'avais que ça comme économie. J'avais pas d'autres moyens de créer des sculptures, de créer des choses qui avaient besoin de volume, ni un budget de production. Donc, j'ai travaillé avec ce que j'avais. Et à faire mesure, j'avais de plus en plus de soutien par des centres d'art ou d'autres personnes qui m'avaient soutenu. Donc, les choses ont pris plus d'ampleur. Donc, j'ai pu avoir plus d'espace. Et avec plus d'espace, j'ai pu me projeter dans des formes plus grandes pour pouvoir regarder ce qu'il y a autour, etc. Et avec le temps aussi, il y avait cette nouvelle étape pour moi, c'était collaborer avec d'autres personnes qui avaient des connaissances plus vaste et plus précise que moi pour la fabrication de certaines œuvres. Donc, chaque projet est très, très différent. Mais c'est vrai que le point de départ n'a pas changé. C'était des idées, des concepts qui sont dans ma tête, beaucoup de lectures, des échanges avec des gens qui sont vraiment experts, parce que moi, je suis pas vraiment un chercheur, je suis quelqu'un qui est intéressé par plein de choses, mais qui n'a pas pu décider sur une discipline pour pouvoir vraiment creuser. Mais pendant un moment, je vais être très intéressée par un sujet, un moment dans l'histoire, et je vais lire ce que je peux. Donc, ça, c'est vraiment l'étape 1, je dirais. Et après, le forme va venir à faire mesure. Je veux dire, ça doit être un film, ça doit être une performance, une sculpture, une installation. Et c'est vrai que l'invitation qui peut être proposée aussi va aussi donner un chemin qui va décider aussi le format. Donc, par exemple, l'invitation pour la vie des tables, c'est sûr qu'il y avait la table qui était bien présente, mais aussi, on a parlé un peu de ça quand Claire m'avait parlé de l'expo. J'étais très enthousiaste pour toutes ces questions politiques, mais aussi... je trouvais très sensible des choses qu'on a tous vécues, de rester chez soi ou chez quelqu'un d'autre, des fois. Du coup, pour moi, c'est la pièce que je présente. C'est peut-être la seule pièce pour moi qui est une pièce d'atelier. Parce que je ne travaille pas vraiment en atelier avec une vraie recherche de matériaux tout le temps. Et il y avait des choses qui étaient dans l'atelier. Donc, j'ai travaillé avec ce qui était là, qui était un peu... pas des restes, des tests, des échantillons, des expériments d'autres pièces que j'ai fait pendant quelques années sur un sujet autour de la surveillance et des questions de matière, de visibilité. Mais tous ces bouts, en fait, c'était un peu touchant de mettre tout ensemble parce que ça m'a rappelé de plein d'autres œuvres complètes, mais qui étaient les débuts de recherche, une matière qui a ouvert à un objet fini. Et du coup, tous ces petits morceaux étaient rassemblés sur la table d'atelier, cette fois-ci. Et ça, c'était un peu comme un résumé de pas mal d'années de recherche, mais qui aussi était de contraintes de ce moment de confinement aussi, qui était assez chouette de pouvoir travailler comme ça. Et comme j'ai dit, c'est peut-être la seule pièce d'atelier que j'ai pu faire jusqu'à présent.
Alors peut-être pour prolonger un peu ces questions d'atelier et de communauté, c'est vrai que c'est aussi beaucoup de choses, toutes ces formes non autoritaires qui passent peut-être par la parole, cette forme plus libre et plus fluide d'être en relation avec les autres. Et donc je voulais vous poser la question de savoir qu'est-ce que vous écoutez lorsque vous travaillez, si vous écoutez quelque chose.
Moi, je n'écoute pas grand-chose. Je pense que ma tête est toujours en train de tourner assez vite, avec plein de voix déjà, avec des restes de conversations, etc. Mais j'ai pu avoir un peu plus de temps de lire pendant le confinement. Et du coup, j'ai commencé à lire Escape to Berlin de Adrian Piper. Donc ça, c'était un peu... Il y avait des petites phrases comme ça qui revenaient un peu. Donc c'était un peu la liste de courses que j'avais à faire. C'était plutôt ça, mon bon son. C'était ma tête qui tournait, en fait. Donc moi, je travaille surtout en silence. De temps à autre, je vais mettre un peu de musique pour bouger dans l'atelier, mais c'est plutôt silencieux chez moi.
Oui, moi aussi, en fait, hein, c'est de plus en plus silencieux. Je veux dire, il y a quelques années, je travaillais toujours en musique, et maintenant, en fait, oui, je pense que quand on est en train de réfléchir ou d'écrire, on est très habité par ces bribes de conversation, mais voilà, je peux aussi garder en tête des génériques de séries que j'ai regardées le soir, voilà, et... En fait, je crois que ce que j'écoute plus volontiers, alors ça ne va pas forcément être de la musique, mais c'est en effet des podcasts. Et j'ai beaucoup rattrapé aussi pendant le confinement. Et j'ai écouté beaucoup de voix, en fait, sur France Inter, sur France Culture, enfin, des voix d'artistes, des voix d'écrivains. Enfin, c'était la distance qui me convenait aussi. C'est-à-dire que j'ai arrêté à un moment d'écouter les informations. Enfin, je me tenais évidemment au courant de la situation sanitaire, mais plutôt avec des gens qui me sont proches, hein, qui travaillent dans le monde de la santé. Et puis pour le reste, j'essayais d'écouter les commentaires des intellectuels, des artistes. Parce qu'au fond, c'est ça mon quotidien. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un qui écoute. Hein, donc mon principal travail, c'est d'écouter, c'est d'être attentive, hein, c'est de sélectionner, c'est de porter tel ou tel message, d'être la médiatrice d'un centre d'art. Donc, c'est ces voies-là qui m'ont intéressée. Et puis, pour notre part, au CREDAC, en fait, on a donné aussi la parole à certains critiques d'art, certaines plumes qui ont écrit des commentaires sur l'expo du Ron Lampert, qui était l'expo en cours au CREDAC, qu'on avait dû fermer, que j'espérais vraiment toutes mes forces réouvrir. Et puis, voilà, on a donné la parole à certaines plumes, plutôt féminines. Donc, je pense à Marceline Delbecq, à Cécilia Bekanovic, à Juliette Paulet, à qui on a proposé aussi de lire leurs textes. Et ces textes ont été dits à la radio, Radio Du. Donc, c'est ça un peu qui m'a habité. C'est plutôt la voix des autres.
Et donc, peut-être pour conclure en point d'orgue, ouvrir également à des résonances avec encore d'autres artistes. Dans le cadre du Festival d'automne, est-ce qu'il y a certains spectacles que vous avez envie d'aller voir, que vous avez envie de vous laisser traverser par ces autres matières, ces autres voix?
Je peux dire tout, sauf qu'on n'a pas le temps de tout voir, mais c'est vrai que la danse, c'est quelque chose que j'ai pas l'occasion d'assister autant au spectacle de danse. Donc, j'ai regardé avec attention performance et danse aussi, qui était dans le programme, et ça m'a beaucoup plu. Donc, j'espère pouvoir assister à quelques-uns des spectacles de danse.
Alors moi, je suis une grande amatrice du Festival d'automne à Paris depuis très très longtemps. En fait, je crois que c'est ce qui a forgé à la fois mon regard... justement pour la danse contemporaine principalement, mais de plus en plus en fait je suis intéressée par le programme musique du Festival d'automne que je trouve vraiment passionnant. Mais cette année, si je devais citer un spectacle que j'aimerais vraiment voir, c'est celui de Gisèle Vienne, parce que je suis aussi une lectrice de Robert Walser. Donc là, il s'agira de L'Étang, donc une adaptation de L'Étang de Robert Walser. Et Gisèle Vienne travaille avec Adèle Haenel, et pour moi c'est une voix aujourd'hui, une voix qui porte des sujets féministes, c'est une voix engagée, c'est une voix courageuse et c'est une voix grand public. Et je crois aussi qu'on a besoin de voix grand public qui viennent du monde de l'art mais qui s'adressent à tous. Donc ce spectacle-là particulièrement.
Et pour conclure, nous demandons à nos invités de venir avec une musique qui les accompagne au travail ou à la vie. Claire, vous nous avez dit que vous travaillez en silence, mais vous nous avez quand même apporté une musique. Il s'agit du générique de la série Trémé par John Boutté. Je vous propose de l'écouter ensemble. Merci beaucoup à tous les deux.
Merci à toi.
On vous retrouve au Festival d'automne avec l'exposition La vie des tables, au CREDAC à Ivry-sur-Seine du 20 septembre au 13 décembre. Quant à nous, nous nous retrouvons le mois prochain aux côtés de la chorégraphe Dorothée Mounianeza et de l'artiste Asma Jama pour parler du spectacle Maille, présenté à Paris et en Île-de-France jusqu'au 19 décembre prochain.
Voix d'automne. Les Inrecuptibles, partenaire de la 49e édition du Festival d'automne à Paris.